de la Chine à la Russie, en passant par l'Iran, la Turquie ou encore d'autres régimes, d'autres pays, cartographie aujourd'hui des nouvelles dissidences et résistances chèrement payées, durement réprimées avec nos invités, la sinologue Marie Holzmann et le philosophe Michel Elchaninov. Et à propos de nouvelles dissidences, de dissidences 2018, Michel Elchaninov, elle a dû s'excuser, faire son mea culpa face caméra après avoir été arrêtée par une cyberpolice pour avoir publié des vidéos d'elle sur Instagram sur lesquelles elle danse tout simplement.
Je n'ai jamais essayé d'attirer l'attention. Il y a simplement eu des gens qui aimaient me voir danser. Mais autrement, je n'ai rien voulu promouvoir. Je n'ai même pas voulu encourager les gens à danser. Je ne fais pas partie d'un groupe. J'ai tout fait moi-même. Je ne me suis d'ailleurs même pas entraînée. Je ne fais que des entraînements sportifs, comme de la gymnastique par exemple.
La musique sur laquelle elle dansait, Michel Elchaninov, vous évoquiez des nouvelles formes d'action créative, artistique. Là, elle a tout simplement voulu être elle-même, sortir un peu des dictats de cette société. Et elle doit, par ses mots, publiquement renoncer, revenir sur son acte.
Oui, mais elle est au Jabri, c'est donc elle a 18 ans et elle a fait ce que envie de faire beaucoup d'Iraniens de son âge, c'est-à-dire danser librement et d'utiliser les technologies pour publier ses danses sur Instagram. Et là, on n'est pas dans le cas, on n'est pas dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire, il s'agit pas de jouer la loi contre le gouvernement. Il s'agit juste d'exprimer au nom d'une génération qui est une génération hédoniste, individualiste, pas trop politisée, souvent très individualiste, d'exprimer sa joie, ce qu'on a envie de faire. Et moi, je me souviens, il y a 3 ans, j'avais rencontré à Téhéran Rehan Taravati, qui elle aussi avait dansé sans foulard, en plus avec des garçons. Elle avait posté la vidéo sur la musique de Happy, de Pharrell Williams. Pareil, ce sont des gens qui ensuite subissent des perquisitions et une arrestation très violente, qui sont traumatisantes. Donc c'est des jeunes gens qu'on traumatise à vie. Et en plus, là, ce qui est terrible avec Mahdéo Jabri, c'est qu'elle a eu droit à cette humiliation publique de l'autocritique, de la confession télévisuelle, forcée évidemment, avec ces questions, faites-vous partir d'un groupe subversif. Enfin, ce sont des méthodes qui existent évidemment en Chine toujours aujourd'hui, qui existaient en Union soviétique à l'époque, avec une nouvelle génération, avec voilà des gens qui aujourd'hui sont pas forcément des militants politiques, mais elles tout simplement qui ont envie de danser.
En Chine, Marie Holzmann, justement, une société de plus en plus surveillée, cyber-surveillée, encadrée, ça fait maintenant partie du plan du régime, du gouvernement, de contrôler cette population qui se laisse petit à petit faire et enfermer dans ces nouveaux principes. Et pourtant, cette jeunesse, ces instruments, ces nouveaux outils technologiques lui ont aussi permis de se libérer, de communiquer d'une autre manière, de s'exprimer tout simplement. Quelle vraie différence voyez-vous entre la jeunesse d'aujourd'hui et celle d'il y a 20 ans?
Liu Xiaobo l'avait écrit lui-même, il a dit « Internet est un don de Dieu à la Chine ». Et il avait expliqué dans le temps, pour faire sortir un article de moi, c'était terriblement difficile, parce que d'abord il fallait que j'écrive mes articles à la main, que je les corrige, que je les recopie et tout, puis après il fallait que je trouve des porteurs pour amener mes articles à l'étranger, parce que je pouvais jamais être publié en Chine. Et quand Internet est arrivé, ça a été une explosion de liberté. D'abord la liberté d'écrire, puis la liberté de parler au reste du monde. Mais aujourd'hui, cette intelligence artificielle a fait des progrès machiavéliques en Chine, et c'est probablement, je pense maintenant, le pays post-orwellien le plus évident du monde, parce qu'ils font des progrès constants. Il y a la reconnaissance faciale, maintenant il y a la reconnaissance de la démarche, c'est-à-dire un homme peut se faire pousser une barbe, etc., changer son visage, mais sa démarche, c'est difficile à changer. Mmh. Il y a la reconnaissance de la voix, tout est reconnu. Donc on a mis les citoyens, les individus, dans des mini-mini cases où on peut les retrouver instantanément. Et les autorités se vantent de ça. Par exemple, il y a un concert de rock quelque part. Il y a des caméras de reconnaissance faciale qui fonctionnent. Et à la fin du concert de rock, on a arrêté ce qu'ils appellent trois voyous, trois vauriens. Alors, ça peut effectivement être des criminels, des petits voleurs. Ça peut aussi être des dissidents. Et puis, ils s'en vantent, quoi. Il y a plus du tout de faire semblant.
À lire le dossier très fouillé hein, que l'Obs consacre à cette question cette semaine dans son nouveau numéro. Et c'est assez effrayant, sur le fond, ce qui est en train de se passer, cette transformation, Michel Elchaninov. Le nouveau théâtre des opérations, ça devient cela, ça devient Internet, cette toile qui était une promesse de liberté, d'expression notamment. C'est là où ça se joue de plus en plus, les restrictions.
Et c'est ce qu'avait écrit d'ailleurs, il y a quelques années déjà, un spécialiste d'Internet qui s'appelle Morozov, qui avait écrit The Net Delusion, qui était biélorusse lui-même, qui avait déjà expliqué que Internet pouvait apparaître comme une immense libération, mais que les États allaient aussi s'en emparer, et qu'aujourd'hui, par exemple en Chine, les outils des GAFA, de la nouvelle économie, c'est-à-dire la notation, la reconnaissance, l'intelligence artificielle, sont utilisés de manière extrêmement efficace, et en Chine notamment, pour surveiller, noter et empêcher le mouvement et la liberté des citoyens.
Un mot de ces nouveaux dissidents que vous racontez dans votre livre, Michel Elchaninov, ils ne sont pas tellement plus... c'est pas les intellectuels classiques qu'on a l'habitude de désigner ici chez nous, mais ils sont quand même les éclairés aussi de ces régimes.
Hein. En fait, ils sont souvent contre le mot dissident, ça veut dire qu'ils font dissensus par rapport à une majorité qui ne voit pas forcément le problème actuel. Donc, ce sont parfois des gens qui voient, parce que ça les concerne directement ou pas, ce qu'une majorité accepte pour l'instant. Donc, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui vont accepter de payer le prix, parfois très dur, d'évolutions qui auront lieu plus tard. Ce sont des gens qui effectivement sont courageux et à visage découvert acceptent ce fardeau d'aller pointer du doigt de manière têtue souvent, de manière obstinée les problèmes d'une société. Vous savez, aujourd'hui même, Oleg Sentsov a 42 ans, c'est son anniversaire. C'est un jeune cinéaste. Il va fêter son anniversaire en prison parce que il a dit ouvertement que l'annexion de la Crimée était quelque chose, un rapt inouï dans l'Europe d'après-guerre. Il a osé le dire sans prendre les armes. Il en paye le prix et voilà. On espère que quelques jours après son anniversaire, il va être libéré quand même.
Qu'est-ce que vous dites, Marie Holzmann, Michel Elchaninov, à ceux qui vous disent? En effet, mais qui on est, nous, pour aller donner des leçons de morale aux Chinois, aux Russes, aux Iraniens?
On donne aucune leçon de morale. C'est simplement de dire que la politique, que l'attention au monde se porte aussi sur des gens qui vivent loin de chez nous, des gens qui ont une démarche personnelle admirable, des gens qui sont en danger physique tout simplement, et c'est ce qu'on dit à la fois à quelqu'un quand on discute ou au président Macron quand on s'adresse à lui dire que il s'agit pas de droit de l'hommisme, il s'agit pas d'interventionnisme, il s'agit pas de néoconservatisme, il s'agit simplement de ramener la politique à son point d'orgue, qui est la défense de l'intégrité, de la liberté des humains. Et de certains en particulier, quand ils deviennent des symboles, quand ils souffrent justement pour leur combat pacifique. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement revenir à cette compréhension simple de la politique comme affaire humaine, donc affaire qui concerne la liberté de tous les humains.
Marie Holzmann.
Oui, et puis je crois qu'il faut se souvenir des grandes dates de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, l'intervention des États-Unis, de la Grande-Bretagne aux côtés de la France pour lutter contre le régime nazi. Ça a été illustré par ce film magnifique, Les Heures sombres, qui montre bien ce combat entre ceux qui sont prêts à capituler essentiellement pour des raisons commerciales. On peut vendre des choses aux Allemands, pourquoi les antagoniser? Et donc c'est les raisons qui persistent aujourd'hui encore. Et puis cette position de Churchill qui dit, bah non, il y a un moment où l'inacceptable devient inacceptable. C'est inacceptable de laisser mourir un prix Nobel de la paix en prison. Ça ne s'est pas vu depuis 1938 sous un régime nazi. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous ? On a la liberté, on a la possibilité de s'exprimer, alors que les Chinois ne l'ont pas. C'est notre responsabilité d'être humain. La planète est complètement mondialisée maintenant, tout le monde le sait. On a des Chinois qui viennent s'établir en France tous les jours, on a des jeunes Français qui vont faire du business en Chine tous les jours. On ne peut plus faire semblant que moi c'est moi et toi c'est toi et on ne s'occupe pas les uns des autres.
Et si on commençait par balayer aussi devant notre porte, est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui des raisons de dissidence en France, Michel Etchaninov ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des nouveaux dissidents pour vous ? Est-ce que ce sont les lanceurs d'alerte ? Ouais. Est-ce que ce sont ceux qui pratiquent la solidarité à l'égard des migrants, par exemple ?
Oui, vous avez donné deux principaux champs d'exercice d'une action non violente, ouverte, d'engagement personnel en France, le délit de solidarité, le fait d'aider un migrant, le fait de révéler des opacités dans des domaines industriels ou étatiques comme le font les lanceurs d'alerte sont, à mon avis, des formes de nouvelles dissidences dans nos contrées. Je pense qu'il est important de comprendre que effectivement la dissidence c'est pas seulement quelque chose d'exotique, c'est quelque chose qui peut nous toucher un jour parce que les abus de pouvoir, parce que les opacités, les lobbies existent partout. Donc je pense qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre que ça peut arriver chez nous.
On va dans quelques minutes avec l'historien Fabrice Dalméda revenir sur une grande figure de la dissidence qui a encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui, Nelson Mandela, qui aurait eu 100 ans ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il vous a appris à vous deux dans sa manière aussi de résister au clivage, au fait contre lesquels il était opposé dans sa propre société ? Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui ?
Pour moi, je m'en souviens, j'étais enfant quand il a été libéré. C'est une forme c'était quelqu'un qui rayonnait. C'est-à-dire que pour moi, la dissidence, c'est quelque chose de personnel. C'est pas des catégories, vous savez, les droits de l'homme, les activistes. Un dissident n'est pas un petit soldat, quoi que ce soit. C'est une personne libre, donc qui porte en elle une forme de rayonnement. Et moi, j'apprécie, ce qui m'a toujours impressionné dans les dissidents chinois, soviétiques, les nouveaux dissidents, c'est qu'il y a un engagement qui porte le sens d'une vie. Victor Hugo disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » Et ce sont des gens qui vivent pleinement. Et donc c'est cette démarche un peu personnelle, éthique autant que politique, qui moi me touche beaucoup et qui dans la figure de Nelson Mandela notamment.
Et cette morale avec l'idée que imposer, disons, la paix, la justice par la violence amène à créer une nouvelle violence. Donc ce refus de la violence. En Chine, on a un Nelson Mandela qui n'est pas suffisamment connu, c'est Ilham Tohti, qui dit au gouvernement chinois, arrêtez de persécuter le peuple ouïghour, essayez de le comprendre, essayez de négocier avec lui, essayez de faire émerger des élites ouïghours au Xinjiang. Et le résultat, c'est qu'Ilham Tohti a été condamné à vie. C'est une condamnation à mort. Donc nous nous empressons, nous essayons d'en faire un nouveau prix Nobel de la paix, avec la crainte maintenant de le voir avoir le même destin que Liu Xiaobo. Vous voyez quel recul extraordinaire est en train de se produire en Chine aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Marie Holzmann. Merci, Michel Etchaninov. Les Nouveaux Dissidents, c'est votre ouvrage paru chez Stock, mais c'est aussi le nom d'une association qu'on peut soutenir.
Oui.
Pour ceux qui le souhaitent.
Qu'on peut soutenir, à laquelle on peut adhérer en allant notamment sur le site internet de notre association, donc les Nouveaux Dissidents.
Merci beaucoup. À suivre, Fabrice Dalméda nous rejoindra dans le studio des Matins de France Culture.